Coco, you ready?
Yeah.
Okay, drop in. 5, 4, 3, 2, 1, drop in!
Gonna be putting that into use as we see Max spinning into the couloir, bouncing off that leg.
C'était la première fois que je disais, ça arrive un accident, ça s'appelle un accident, c'est pas pour rien.
Bam! Tête de pied.
C'est une vraie grosse aventure.
Je skiais pour prouver quelque chose et c'était horrible.
T'es comme un gamin à faire des burns et tout.
Je pense que ça nous a fait mûrir sur plein de points, hein. Honnêtement. Hein.
Et tu continues de cultiver des amitiés fortes.
That was fun!
Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skieur Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés? Coup de Poudre saison 3, c'est tout de suite. Épisode 1, Jérémy Bernard et l'épopée au Kirghizistan.
There are a thousand ways to begin a story. This particular story has its own unique starting point.
Du coup, aujourd'hui, on va partir au Kirghizistan, au mois de mai 2022, avec l'équipe Picture. Et donc, cette aventure, elle a été imaginée par Thomas Delfino, snowboarder grenoblois, qui a pensé ça il y a 3 ans. Depuis le début, cette aventure, elle a enchaîné galère sur galère. Thomas, il avait imaginé, en fait, à la base, partir en Russie, depuis chez lui en train. Il était parti avec cette idée de rejoindre une région de Russie grâce au Transsibérien. D'abord avec le train depuis Grenoble jusqu'à Moscou, et ensuite avec le Transsibérien. Et puis, petit à petit, ce projet qui était un projet entre amis s'est transformé à devenir une aventure suivie par une marque et pour faire un film d'aventure. Et donc, on devait partir en Russie. Ça fait 3 ans qu'il travaillait dessus. Et puis, tout a été annulé au fur et à mesure. Parce que la première année, il y a eu le Covid. La deuxième année, il y a eu le Covid. Et puis cette année, au mois de janvier, j'étais le dernier à rentrer dans l'aventure parce que en 3 ans, l'équipe avait changé et moi, ils m'ont fait rentrer et puis on devait partir en Russie. Et puis un mois après, il y a eu la guerre en Ukraine.
Le jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules.
Donc du coup, rebelote, réannulation, impossible de partir en Russie. Et donc là, il y a Thomas qui nous sort un plan B, c'est le Kirghizistan. Il y est allé 6 mois avant avec un ami et sa copine pour faire de la montagne, pour faire de la glace, pour découvrir le pays. Il a adoré, il est tombé amoureux du coin. Et en cherchant, parce que Thomas est un gros passionné de cartes, satellites, de choses comme ça, il est tout le temps en train de regarder des montagnes à travers le monde. Et il a découvert le massif du Kokshaltu, qui est un massif montagneux à la frontière avec la Chine, donc au sud du Kirghizistan. Donc voilà, nous voilà embarqués pour le Kirghizistan au mois de mai 2022. Donc l'équipe, elle est composée d'un réalisateur, Guillaume Broust, d'un caméraman, Pierre Fréchou, de 2 guides de haute montagne, Jean-Yves Fredriksson, Elias Meirou et 3 riders. Donc Thomas, snowboarder, Aurélien Lardy, skieur de pente basé à Chamonix, et Léa Clau, snowboardeuse suisse. Puis moi, en photographe. Une joyeuse équipe qui ne se connaît pas du tout. Même les athlètes, les riders n'ont jamais fait de projet ensemble. Aurélien est très jeune, Jean-Yves est très vieux. Non, je rigole. Mais oui, il y a un bon gap. Il y a un bon gap entre nous tous et on vient tous d'univers différents et ça fait une équipe assez éclectique. Et donc nous voilà embarqués pour le Kirghizistan. Donc du coup, il y a une équipe qui part de Genève et puis il y a une équipe qui part de Lyon. Et on se retrouve tous à Istanbul pour finir à Bishkek, qui est la capitale du Kirghizistan. Donc on se retrouve tous là-bas. Dans l'équipe, tout le monde a ses affaires, sauf Guillaume. C'est pas très très important. On sait que les bagages se perdent. Il est arrivé 24 heures après. Il y a juste Guillaume qui était stressé. Les autres, ils s'en foutaient. Faut être honnête. Et puis, on se retrouve à Bishkek, ville. Enfin, moi, j'étais déjà allé au Kazakhstan. Ça m'a vraiment rappelé Almaty, Bishkek. Une énorme ville avec des énormes artères, des énormes immeubles carrés. C'est très varié entre les malls modernes et faits pour les riches et à côté les marchés à ciel ouvert faits pour les autochtones de la ville. Quoi. C'est vraiment très varié, très exotique quand même de se retrouver dans une ville, dans un pays de l'ex-URSS. Les gens sont typés. Entre la Russie et l'Asie, quoi. C'est vraiment un mélange de cultures qui ont fait des gens très jolis et très typés. Donc c'est très, enfin c'est assez caractéristique. Mais voilà, donc on est toute notre petite équipe à Bichkek. On fait nos courses, on récupère les dernières affaires qui nous manquent en termes de nourriture, en termes de matériel. On va chercher le gaz parce que le gaz, on ne peut pas voyager avec. Puis on va à l'agence qui organise notre expédition, l'agence qui a organisé notre rentrée dans la vallée du Kokshaltou. On est à l'agence, on charge le camion, tout le monde est super excité. On se retrouve devant un Kamaz qui est un poids lourd 6-6 russe. C'est un espèce de char d'assaut, tank. Passe-partout, bien vieux, bien rouillé, pas très confortable, mais on se dit qu'on ira de partout avec ce truc. On part très vite, Thomas est super impatient. Thomas a vraiment envie de commencer l'aventure, pour lui rester à la ville, ça n'a aucun intérêt. Il faut y aller quoi. Et donc là, on part le matin et on sait qu'on a 24 heures sur les routes classiques de Kirghizistan. Et puis dans 24 heures, on attaquera à rentrer dans la vallée et on remontera jusque le point GPS qu'on avait imaginé avec l'agence et notre chauffeur. Donc jusqu'ici, tout va bien. On prend le camion, on est super excité. Les paysages sont grandioses. C'est très sec, très aride. Moi, j'ai l'impression de retrouver les paysages de l'Iran avec des espèces de montagnes, des collines de terre rouge qui se forment en espèces de spines, d'arêtes. Ouais, c'est un mélange de désert et de plateaux et de hautes montagnes. C'est très beau. On passe déjà des cols à 3000, goudronnés. C'est assez impressionnant. Et puis, très vite, le lendemain, on s'enfonce dans cette vallée. Et là, on sait qu'à partir de ce moment-là, on n'aura plus du tout de contact avec... avec le monde, si ce n'est nos téléphones satellites et les InReach ou les bornes GPS pour envoyer des textos, des choses comme ça, pour donner des nouvelles. J'ai oublié de mentionner, du coup, c'est vrai que ma femme était enceinte. Le jour de mon départ, elle rentrait dans le 8e mois. Et du coup, c'était un petit peu stressant. Je ne savais pas vraiment comment j'allais réagir à la laisser pendant plus d'un mois toute seule. Deux jours après mon départ, elle avait l'échographie, la dernière écho avant accouchement. Et puis, c'est vrai que j'avais réussi à l'avoir au téléphone. Et puis, elle m'avait vachement rassuré. La sage-femme, enfin l'échographe, avait vraiment rassuré Nina sur le fait que le bébé s'était déjà retourné, il était prêt. Et puis, son col était très fermé. Il n'y avait aucun signe d'arrivée du bébé là dans les semaines, enfin dans les jours, on ne sait pas, mais en tout cas pour elle il n'y avait pas de signe, donc ça m'avait bien rassuré. Mais ça faisait toujours un peu bizarre quand même de se dire bon tiens. Mais il y avait quand même Guillaume qui venait d'avoir un petit aussi, son troisième, qui avait 2 mois ou 3 mois, donc lui il était aussi dans une situation quand même. Mais avec toutes les péripéties de programmation de ce voyage, en fait, personne n'avait imaginé partir dans ces conditions-là, quoi. Guillaume, il devait partir il y a 3 ans. Il en avait 2, mais des grands. Il ne devait pas avoir un troisième qui était là et qui était tout neuf, tout frais, sorti 2 mois avant. Et moi, ben, c'était pas prévu à la base de partir en expédition non plus. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que, bon, du coup, tout s'est bien passé. C'était un peu stressant, mais tout s'est très bien passé. Nina m'a vraiment mis en confiance dès le début et j'ai réussi à vraiment faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'on rentrait dans cette vallée et c'était pas possible d'en sortir rapidement, quoi. C'était possible d'en ressortir, aucun problème, mais pas rapidement. Donc, du coup, on s'enfonce dans cette vallée. C'est pas très long en kilomètres. Ça faisait la piste, je pense qu'on a dû remonter une centaine de kilomètres de piste. Mais c'était une piste, plus on s'est enfoncé en fait, et plus on s'est rendu compte que ça allait devenir compliqué. En fait, chaque passage de guet était défoncé par la fonte, par la neige de l'hiver qui était passée. C'est un énorme plateau, quand même assez haut, entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. Voilà, il y a une piste au milieu de steppes assez plates qui m'ont fait... J'y suis jamais allé, mais en fait, à des photos de Mongolie, quoi, des énormes steppes mongoles, avec cette piste au milieu, qui est l'unique point, enfin l'unique accès pour nous et l'unique manière de se rendre là-bas, parce que autour de la piste, rien n'est meuble, quoi. On s'enfonce, c'est de la boue, on ne peut pas circuler avec un 15 tonnes. Et ça, on va s'en rendre compte très rapidement, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des difficultés qui se mettaient devant nous, c'était des ponts pétés, ou des rivières à traverser, ou l'eau qui avait emmené un petit peu de matériaux, de pierres, de cailloux sur son passage, qui avait creusé le chemin, et le camion franchissait tout. Et depuis le début, on imaginait pouvoir faire des détours à côté du chemin pour pouvoir passer, quoi. Pour nous, ce camion, il était indestructible, il passait de partout. Et le chauffeur, depuis le début, il nous disait non, 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 niet, niet, niet. C'était très compliqué, la discussion avec lui, parce que il parlait pas du tout anglais, le cuistot qu'on a embarqué avec nous parlait pas du tout anglais non plus, et il voulait absolument pas sortir de la piste dès qu'on avait une difficulté. Il fallait sortir, réfléchir, il voulait pas du tout aller dehors. Au début on le prenait pour un peureux, quoi, un truc, bon ouais, il veut pas aller off-road, quoi, avec son 4x4, avec son énorme tank. Elias, ah non mais nous on peut, c'est là-bas qu'il faut passer.
Oui, les jeeps au Pakistan, les jeeps machin, ça passe de partout. Ça, c'est un tank, c'est un char d'assaut. Ça doit aller. Puis on voulait vraiment le faire sortir de la piste, quoi. Et en fait, jusqu'au surlendemain, le deuxième jour de camion, où là, on se retrouve devant une difficulté majeure. La route est coupée en deux. Il y a un trou de 2 mètres de profond. Et on peut pas passer. On peut pas creuser, on peut pas faire un pont, on n'a rien, on n'a pas de matériel pour passer. Donc là, c'est. On avait vu déjà avant qu'on faisait des longues marches arrière, des marches avant, des. Il cherche son passage, c'était pas un long fleuve tranquille, quoi, cette montée, c'était pas. Et là, par contre, c'est vraiment l'impasse. Donc là, rebelote, on pousse pour que le camion puisse aller de côté, parce que nous, on se dit, bon, si on va, c'est tout plat. Il y a des petites collines, mais le camion, il va passer, quoi, je veux dire. Et depuis le début, il nous dit non, et il continue à dire non. Donc là, je pense que c'était pour nous montrer pourquoi il disait non. Et puis, il a voulu nous montrer, il a voulu aller en dehors de la piste avec son camion pour franchir ce trou, le contourner par la gauche, à fleur d'un lac. Et là, il a à peine mis une roue. Il voulait passer à moitié dans le lac. Il voulait, enfin, c'était complètement ahurissant. On s'est dit, mais il est complètement de côté, quoi. Je pense, enfin, je sais pas combien était la pente, mais on s'est dit, mais il va se retourner, quoi. Et à peine il a avancé, il s'est tanké. Pas roue avant, bloqué à moitié dans le lac. Et là, ça bougeait plus. Le truc, il bouge plus. Et là, on avait le camion 15 tonnes. Eux, ils sont jamais excités, ils sont jamais énervés. C'est juste nous, on savait pas quoi faire et il a fallu sortir là les pelles à neige et tout ça pour balancer la boue de côté, essayer de ramener des pierres pour faire des calages, des trucs. Et on est sorti assez rapidement. Et là, Elias, il continuait son truc. C'est pas de ta faute, Elias. Hein, je suis désolé. Mais il continue son truc. Mais il faut passer là-bas, il faut passer là-bas. Et donc il dit non, 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 jusqu'au moment où il craque. Et donc là, de la première tentative où il nous a, je pense, donné une alerte, je pense qu'il a pété un plomb intérieurement. Il a dit, ils me font chier ces Français. Je vais leur montrer ce que c'est le problème ici, quoi. Et donc là, Elias devant, il guide le camion. Donc là, le camion, on le voit partir dans la pampa. Oh putain, ça marche trop bien. Ça a duré 200 mètres. Et là, on s'est tanké entre deux patchs d'herbe. Il y avait un espèce de bourbier, quoi, que de boue. Et en fait, nous, on passe à pied. Mais 15 tonnes, ça passe pas. Et le truc, il est arrivé, il s'est enfoncé. Et là, on s'est enfoncé jusqu'à plus pouvoir bouger du tout. Je sais pas, le camion, l'entrée de la caisse à l'arrière où on avait les sièges et on avait chargé notre matos, il devait m'arriver à l'épaule. Donc c'est très haut comme camion. Et nous, on était enfoncés, je sais pas, à hauteur de mon coude, quoi. Mon avant-bras, un truc comme ça. Donc on avait, je sais pas, on était enfoncés, je sais pas, d'un mètre peut-être dans la boue, un truc comme ça. Donc un truc de 15 tonnes bloqué au milieu de la pampa tout seul. Donc là, on était bien embêtés. Ils étaient bien énervés, les Kirghiz, en nous disant, bah voilà, on vous avait dit, quoi. Donc là, c'était la première grosse galère et on s'est retrouvé là. On était à 40 km du point GPS que Thomas avait imaginé. On s'est retrouvé là, les 8, plus notre cuistot, à pas savoir quoi faire. On avait à peu près, avec la nourriture, avec le camp de base, la nourriture du cook, plus nos liofs, plus notre matériel à nous. Je pense qu'on avait, on avait un peu moins de 800 kg à transporter. Donc c'était très compliqué, parce que 40 km en soi, c'est pas très loin, mais la logistique matérielle, elle est devenue très compliquée, quoi, elle est devenue très dure. Et donc là, réunion de crise, ça faisait 3 jours qu'on était partis, réunion de crise, il fallait trouver une solution. Bien sûr, la météo était exécrable, il pleuvait, il neigeait, il faisait beau, il faisait du vent. C'était un peu l'Écosse ou un peu la Patagonie, je sais pas, mais c'était vraiment exécrable. Et puis du coup, ben, il fallait qu'on soit aussi raccord les 8, savoir dans quoi on s'engageait et où est-ce qu'on allait, parce que à la base, on devait arriver là-bas en camion, quoi. Donc, et on devait être à côté de la neige. Donc là, on se retrouvait à 40 km de notre point de chute et on ne savait pas s'il y avait de la neige. On n'avait pas encore vu le truc. Par chance, on a réussi à retourner au dernier checkpoint militaire qui était 8 km plus bas que notre point où on était bloqué. Et Jean-Yves avec Thomas et Elias sont allés négocier des chevaux. Et ils avaient 5 chevaux à dispo. Et c'était pas trop chaud de nous aider parce que c'est les militaires et parce qu'ils sont pas censés aider les civils pour leur plaisir, quoi, pour aller skier des montagnes au fin fond du truc. Et puis en discutant, on a réussi, ils sont venus nous voir, ils ont vu qu'on était quand même dans la galère. Ils ont dit oui. Toujours avec une discussion approximative, parce que personne parle anglais, nous personne parle le russe. Thomas avait pris des cours de russe et donc essayait et arrivait à dire 2-3 mots, il arrivait à se faire comprendre. Et tant bien que mal, on a réussi à comprendre que le lendemain, il allait avoir 5 chevaux.
Donc du coup, entre-temps, on avait appelé au téléphone satellite l'agence. Ils nous ont envoyé un deuxième camion pour sortir le premier camion. Le deuxième camion est arrivé en fin de journée. C'était 18h, là. Il neigeait. La nuit allait arriver. Le but, c'était pas de le sortir. Le but, c'était de venir chercher notre chauffeur. Parce que à force de forcer avec le camion, il avait cassé quelque chose dans le camion. Donc ils pouvaient pas sortir d'ici sans changer la pièce de ce camion. Donc leur but c'était de repartir le lendemain matin, d'aller chercher la pièce à la ville la plus proche, de revenir, de réparer et de sortir le camion avec le deuxième camion. On a tanké le deuxième camion. On a passé toute la soirée à sortir le deuxième camion. creusé à base de pelle à neige dans la boue, creusé pour sortir le deuxième camion. On l'a emmené à côté du camion tanké. On a passé la nuit. Le lendemain matin, ils se sont réveillés. Ils ont voulu repartir. Ils sont se retankés. Et là, ils étaient bloqués de chez bloqués, le châssis posé dans la boue du deuxième camion. Ils pouvaient plus bouger. Et nous, il y a les chevaux qui sont arrivés. Et on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est eux qui nous amènent ici. On se barre. On les laisse tout seuls. Ils sont quand même vachement moins équipés que nous. Nous, on avait des doudounes. On a des sacs de couchage. On a des tentes. Eux, ils ont rien, quoi. Ils ont une cartouche de clope, 4 bouteilles de vodka et rien d'autre, quoi. Ils ont des pauvres bottes en caoutchouc, ils dorment dans leur camion, pas du tout isolé, sans chauffage, enfin bref, c'était dur quoi. Et Jean-Yves, il nous dit, ok, pas de problème, moi je monte avec les chevaux, en avance. Donc il y a 2 personnes qui partent avec les chevaux de notre équipe, parce qu'ils savent qu'ils peuvent monter en une fois au camp de base. Nous, on dit, ok, les 6 autres, on monte à pied en 2 jours. On prend des sacs plus ou moins light, et on monte là-haut en 2 jours, et on vous retrouve le surlendemain. Et Jean-Yves, il dit, bon, ok, ben moi je monte, j'installe le camp, et le lendemain, je redescends, comme ça, je vais les aider. Et on est sûr et certain qu'ils sortent d'ici, et il y a quand même quelqu'un de nous qui les aide. Donc, grosse logistique quand même, Jean-Yves, il monte en cheval. En une journée, ils essayent de monter le plus de matériel possible, et tant bien que mal, on essaye de négocier un deuxième round avec les militaires pour nous emmener le camp de base avec le cook. Donc, tout ce qui est nourriture... solide, on va dire, et nous on est parti que avec nos lioffs pour être sûr et certain qu'on puisse quand même tenir un minimum là-bas, même s'ils n'arrivaient pas à nous ramener le cook avec la nourriture. Et donc voilà, et on est parti. J'étais pas préparé pour ça, j'étais pas préparé pour faire du trekking avec un sac à dos de 25 kilos, mais voilà, il fallait le faire. On est parti, tout le monde a pris la décision, on y va, et donc là on marche toute une journée. Par chance, grand beau. Grand ciel bleu, il fait beau, il fait chaud, c'est cool. On marche. Du coup, on est 6. On rigole bien, c'est le début, voilà. On a quitté notre galère de camion et puis on sait qu'on va arriver à marcher. Je veux dire, c'était assez sympa parce qu'au final, c'était un univers super safe, quoi. C'était, on était sur cette piste 4x4, sans neige. Voilà, quoi, on marche. Là-bas, il n'y a personne. Il n'y a pas de bêtes sauvages dangereuses. Il n'y a pas de chasseurs ou de militaires bloqués ou de je sais pas quoi. Enfin, on était vraiment... Il n'y a pas d'avalanche, il n'y a pas de zone glaciaire. On est en totale sécurité, quoi. Donc, on fait un trek entre copains et on avance, on monte. C'est cool. Jusqu'à fin de la première journée de marche, où là, on se retrouve devant une rivière. On avait traversé quelques rivières dans la journée. Là, elle était plus grosse. C'était fin de journée, il avait fait beau, il avait fait chaud. La fonte avait bien fait son travail. La rivière était grosse. 50 mètres plus bas, il y avait encore la glace. Donc une espèce de banquise quoi, qui recouvrait la rivière. Donc là, si tu tombes, tu files dans la rivière, tu passes dessous, c'est fini. Quoi. Elias, il se déshabille. Je le vois traverser. Il manque de tomber. Il en a jusqu'en dessous du caleçon. Elias, c'est quand même... C'est quelqu'un de très doux et t'as envie de le câliner, il est très tactile. Quand tu le vois à la maison, c'est quelqu'un ouais, de très attachant et très doux. Mais en aventure, en expédition, c'est un espèce d'ours qui recule devant rien. Et moi, à côté, je fais pas le poids, quoi. Je suis pas comme ça. Il traverse, Aurel le suit, ils posent leurs affaires de l'autre côté, ils reviennent. Il est, je sais pas, 18h passées, on est à 3005, même s'il a fait beau et chaud la journée, ça commence à cailler, quoi. Ils sont tout grelottants à côté de moi. Ils sont là, ils se caillent le cul. Ils disent faut traverser. Je leur dis ben non, moi je traverse pas là. Vous êtes ouf, je traverse pas quoi. C'est trop dangereux. J'ai un sac beaucoup trop lourd. Je vais jamais y arriver. L'eau elle est marron. On voit pas où on met les pieds. C'est pas possible. Et surtout qu'avant je lui ai dit attends avant de traverser, on va essayer de trouver une solution en amont, en aval, peu importe de la rivière, mais on va essayer quoi. On a très peu cherché. Moi j'ai continué à chercher et lui bien en tête il a traversé. Et donc quand il revient, allez faut y aller et tout. Je dis non, moi je traverse pas là, je suis désolé. Et donc là, premier clash quoi. Là, d'un seul coup, tout reposait sur moi. L'eau, on voyait qu'elle montait parce que c'était la fin de la journée. Et franchement, ça montait quasiment à vue d'œil. Il me dit, mais là, faut traverser, c'est maintenant. Si on traverse pas, on fait quoi? On appelle les autres, l'expé est terminé. On les rapatrie ici, c'est fini. Et là, en 3 minutes, toute l'expé reposait sur mes épaules. Et moi, j'étais là, non, mais attends, mais vous êtes... t'es ouf, quoi. Tu peux pas me faire ça. Je veux dire, calme-toi, faut trouver une solution. Mais moi, non, c'est sûr et certain, je traverse pas là. Donc là, on s'engueule. Guigui et Pierre, ils étaient avec moi. Ils n'avaient pas dit qu'ils traversaient pas, mais ils emmenaient pas large non plus, quoi. Après, moi, je suis de tempérament à dire les choses. Quand un Pierre, par exemple, lui, il en pense peut-être pas moins, mais il dira jamais rien. Lui, c'est une machine, quoi. Il se met sur mute, et même s'il est en train de ruminer tout ce qu'il a, il ne dit rien et il suit, quoi. C'est assez impressionnant. Alors que moi, je dis les choses, quoi, direct. Et là, gros coup de chance, les chevaux reviennent à ce moment-là. Et donc, on leur demande de nous faire traverser la rivière et ils acceptent. Donc, ils nous mettent de l'autre côté. Et puis après, moi, j'étais là, mais putain... C'est vrai que cette expédition, pour moi, elle était difficile à se mettre en route parce que bah, y avait ma femme qui était enceinte à la maison. Tu te poses quand même beaucoup de questions. Là, on commençait à s'enfoncer. Les galères de l'organisation pour la Russie, jusque les camions, jusque... Tu te dis, putain, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en travers. Tu vas traverser cette rivière, tu vas revenir dans 5 semaines... La fonte, elle sera encore plus grosse. Qu'est-ce qui se passe si la rivière, elle a encore augmenté? Les chevaux, ils n'avaient pas prévu de venir nous chercher. Parce qu'on partait là-bas, mais on ne savait pas comment on allait rentrer. On avait tout notre matos qui montait là-haut, mais on ne savait pas comment on allait monter. Redescendre. On a planté les tentes de l'autre côté de la rivière. On a dit, allez, hop, on avait fait 21 ou 22 km, je crois. On se repose, on dort et on part demain matin. Voilà, je parlais plus à Elias. Elias me parlait plus. Le lendemain matin, on dit, bon, bah, on va regarder la rivière quand même. Et putain, le lendemain matin, la rivière, il y avait 20 cm d'eau dedans. L'eau, elle était claire. Elle était toujours aussi froide. J'étais là, bon, bah, tu vois, Elias, putain, hier, on s'est précipité. Et en fait, c'est vrai qu'on a été un peu bêtes. Parce qu'Elias, il voulait pousser. Moi, je voulais pas traverser. Et au final, si on avait réfléchi un peu, on aurait pu imaginer avec l'expérience. Se dire, ok, demain matin, il va faire froid cette nuit. La fonte, elle diminue la nuit et on sait que les rivières, normalement en montagne, comme sur les glaciers, toutes ces rivières de fonte, des trucs, ça diminue. Et on aurait pu se dire, attends, on se calme et on traverse demain matin. Bref, on est arrivé du coup le lendemain, on a continué, on s'est réveillé sous la neige et là on a commencé à être haut et on languissait déjà le camp de base et de retrouver Thomas et Jean-Yves qui était monté là-haut. Donc voilà, bon, on continue notre marche, on est une 20aine de kilomètres le lendemain, on arrive dans la neige. Là, ça devient un peu moins drôle parce qu'à des moments, ça porte, à des moments, ça porte pas. Donc on s'enfonce jusqu'aux genoux, chacun marche de son côté, on est tous un peu éparpillés sur plusieurs centaines de mètres sur le chemin, jusqu'au moment où finalement, on arrive à voir le camp de base que Jean-Yves et Thomas avaient monté. Magnifique, c'était trop beau, il avait neigé, il faisait beau. On est arrivé pour le coucher de soleil, il faisait beau, c'était trop bien. Et là, on se pose et puis on se dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont loin, les montagnes. Là, on n'était pas encore arrivé, on n'était pas du tout au point où Thomas avait voulu aller. Mais on ne pouvait pas aller plus loin. Les chevaux, ils n'arrivaient plus à avancer le jour d'avant. Ils s'enfonçaient dans la boue, ils ne pouvaient plus avancer. Et vu qu'il y avait plein d'inconnus, on s'est dit, enfin Thomas et Jean-Yves, ils se sont dit, on ne peut pas pousser notre camp plus loin. Si on pousse notre camp plus loin, déjà qu'on ne sait pas comment on va rentrer, les chevaux, ils ont galéré à l'aller. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas. Donc du coup, on a fait un camp de base un peu plus proche. Et là, on a réalisé qu'on était à 15 km de la neige, du bas du glacier où on voulait aller skier. Qu'il y avait une rivière juste sous notre camp qui était grosse. Et du coup, les jours qui ont suivi ont permis à faire du repérage. Et en fait, ça a été de la logistique du début à la fin. Je sais pas si je peux trop en raconter parce que ça va trop spoiler le film. Et ce film, en fait, c'est une aventure humaine incroyable. Moi, je suis rentré de ce truc. Déjà, ma femme n'avait pas accouché. J'étais content. Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi une expédition? Ça veut dire quoi? À quoi bon? Depuis le jour 1, quand même, ça a été compliqué. Plus ou moins compliqué, plus ou moins résolvable, on va dire. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu résoudre et il y a des choses sur lequel il a fallu s'asseoir pour que l'expédition fonctionne, quoi. Donc il y a des trucs qui ont fonctionné, il y a d'autres qui n'ont pas fonctionné. On a dû s'adapter du début à la fin. Mais quand même, logistiquement parlant et physiquement, ça a été éprouvant du début à la fin. On a marché tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec des sacs très lourds. Et donc là, c'était la différence entre d'un côté Elias et Thomas, qui sont des gens, je pense... Tant que tu marches pas avec un sac de moins de 25 kilos et du verre pilé dans tes chaussures de montagne, c'est pas drôle. Jean-Yves Fredriksson, qui est connu pour ses aventures en parapente, notamment, qui a quand même traversé tout l'Himalaya, enfin la chaîne de l'Himalaya en parapente, en solitaire, et d'autres aventures aux quatre coins de la planète, qui a gravi. Enfin, c'est une machine aussi de guerre de montagne. C'est vrai que le niveau d'aventurier ou le niveau où tu te pousses était très différent, quoi. Mais c'est ce qui aussi a permis de pousser cette aventure. Jean-Yves, là, dans les moments de galère, c'est lui qui était capable de ramener l'équipe tout ensemble et de prendre les inputs en fait, de chacun et d'en faire un espèce de mix qui était une moyenne pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Parce que d'un côté, y a, encore une fois, Thomas et Elias, eux, ils poussent. Mais après, y a l'équipe de prod. On est quand même les plus faibles. On a notre matos à transporter. Eux, d'un côté, ils ont à forcer et à se déplacer pour ensuite se concentrer pour leur ride. Nous, du matin au soir, on est concentrés pour porter notre matos, les suivre et quand même faire les images qui vont autour. Et ça prend de l'énergie, quoi. C'est pas juste appuyer sur un bouton et tout. Je veux dire, Guillaume et Pierre, ils ont leur truc en tête. Ils savent pas comment l'histoire va se dérouler, mais ils ont leur truc en tête. Ils savent comment ils veulent monter, comment ils veulent imaginer monter leur film et comment ça va sortir. Donc, ils ont des idées quand même arrêtées. Ils veulent techniquement faire des choses. Moi aussi, j'ai envie de faire mes trucs. Il y a un juste milieu à trouver, quoi, dans ces aventures qui sont loin et où la logistique de transport est compliquée, quoi. L'année d'avant, j'étais au Pakistan avec Jérémy Heitz et Samuel Antamaton pour la liste Everything or Nothing. Je veux dire, on est monté à Snow Lake, là où d'ailleurs Thomas et Elias étaient passés avec Zabardast sur ce glacier-là. On est monté avec des Sherpas. Et ils ont réussi à venir au camp de base avec nous. Et on s'est retrouvé à 5000 mètres sur un glacier entouré de montagnes. Donc tout est loin aussi, mais on part en ski de randonnée. Après 2 heures d'approche, t'es au pied de la montagne, tu montes, tu descends, tu rentres au camp. Là, on s'est retrouvé sans porteur, sans rien, à 15 km de la neige, avec cette problématique de rivière à traverser encore tous les jours ou tous les 3 jours pour partir skier, quoi. Et donc moi, je me suis dit, putain, mais t'es allé faire ça, pourquoi tu fais ça et c'est quoi une expédition? Qu'est-ce que ça veut dire, une expédition? Parce que pour certains, faut que ce soit extrême, faut que ce soit douloureux, faut se pousser. Et puis d'autres, ils font des expéditions à la maison. Je sais pas, je vais faire le tour de Haute-Tarentaise sur 5 jours. C'est pas une expédition au Népal, mais quelque part, c'est quand même une aventure. Tu voyages en peau de phoque, de refuge en refuge, avec ta bouffe et de quoi dormir. C'est une expédition, quelque part. Et j'étais un peu... Moi, en plus, la marche, c'est pas mon truc. Je me suis retrouvé à marcher tous les jours avec mon gros sac à dos. Et j'étais là, mais putain, pourquoi tu fais ça? Et en fait, du coup, il y a eu l'accouchement. Quand je suis rentré, j'avais vraiment envie de me focaliser sur ma famille, sur le dernier mois avec Nina. Donc j'ai vraiment laissé le Kirghizistan de côté. Après, il y a la petite qui est arrivée. Donc pareil, j'ai pas remis les pieds. Et là, j'ai commencé à remettre les pieds dans les photos fin août. Et en fait, c'était fantastique. Ça m'a permis de refaire le voyage. Et ça m'a permis... je suis rentré un peu frustré de mes images. Parce que forcément, tout était compliqué. Et donc tout n'était pas aussi beau que ce qu'on avait imaginé. Parce que notre camp de base, il était entre boue et neige, tu vois, suivant la journée. Et puis on allait en montagne. On partait quelques jours pour aller skier. Et puis, vu que les montagnes étaient très, très, très loin, nos objectifs, ils ont un petit peu aussi diminué, quoi. On avait donc, du coup, le Kizil Lascar qui culminait en face de notre camp de base, qui est au-dessus de 6000. C'est une très, très grosse montagne, quoi. Autant sur le coup, j'étais pas frustré parce que je voyais bien que ces montagnes, elles étaient quand même inaccessibles dans la configuration dans laquelle on était au moment T. Et que si on voulait quand même skier, il fallait qu'on rebaisse un peu nos objectifs et qu'on puisse avoir d'autres montagnes autour de nous. Donc du coup, on a quand même trouvé notre bonheur dans ces montagnes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu faire autant que ce qu'on voulait. Et donc je suis rentré quand même frustré aussi parce que... Ouais, on est parti 5 semaines, on a skié combien? On a skié 4 ou 5 jours. Et donc, chaque moment où on montait à la neige, il fallait que ça marche, quoi. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que je me suis quand même vraiment fait la réflexion de qu'est-ce qu'une expédition, comment moi je définis une expédition, qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'à où je suis prêt à aller. Et quand même, quand je suis rentré dans mes photos fin août, putain, je me suis refait le voyage et j'ai rigolé, quoi. Et je me suis dit, putain, quand même... Ouais, c'était une chouette aventure. C'était des galères, ok, mais c'était une putain d'aventure. Pas beaucoup de gens ont la chance de vivre des aventures comme ça. J'étais avec des gens quand même incroyables. Les athlètes, on les connaît. Ils sont très forts et ils ont démontré plusieurs fois leur qualité en tant que skieur ou snowboarder. Mais les guides, pour moi, de rencontrer Jean-Yves, c'était vraiment humainement très fort. Et là, tu te rends compte quand même que ces gens-là, ils ont fait énormément de choses dans leur vie. Et en termes d'aventure, ils sont quand même au-dessus des autres, quoi. Ils sont capables de pousser et l'extrême, ils savent le gérer, ils savent le faire. Et donc c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Du coup, on a marché. On a porté. On a traversé des rivières. Et on a quand même skié un petit peu. Et on est tous contents. On est rentré dans l'autre sens. Les chevaux sont revenus. Je ne sais pas par quel miracle. Et ils nous ont descendu le matériel. Et on a réussi à rentrer en une journée. Sous la pluie. Putain, ça, c'était encore une bonne galère. Sous la pluie. Moi, j'ai eu mal aux genoux sur le retour. C'était douloureux. Et on savait que le camion, il n'allait pas revenir jusqu'où il nous avait posé en plus. Parce qu'il ne voulait pas se retanker. Et donc là, je me suis dit, mais Dieu sait où est-ce qu'il va. S'il est resté à la base militaire, c'est à 47 km, quoi. S'il est monté un petit peu plus, ce serait bien. Et là, je ne sais pas, ça a fait comme dans les films. Je ne sais pas comment tu décris, mais j'en pouvais plus. J'avais extrêmement mal aux genoux. J'étais sous la pluie. J'étais trempé. Et on a passé une butte. Et là, j'ai vu le camion. Et il y avait Guillaume et Pierre derrière moi. Et j'aurais dit, putain les gars, il y a le camion. Je pense qu'ils pensaient que je leur faisais une blague, quoi, tu vois. Un truc, ils y croyaient pas, quoi. C'était un peu, tu sais, comme un oasis ou un mirage, tu sais, que tu vois. Putain les gars, il y a le camion. Et là, on arrive au camion. Il y avait Thomas, Léa et Aurel qui étaient déjà arrivés, qui étaient en train de se faire des liofs à l'intérieur du camion. Et on était trempés, du coup, c'était de la buée de partout. Et il y avait notre chauffeur qui était là. Et on est reparti dans l'autre sens. Et on a encore bien profité derrière. On s'est fait une petite semaine de tourisme. Et voilà. Et donc, du coup, notre petite semaine dans les yourtes. Et ensuite, retour à Bishkek. Où là, nous, avec Guillaume, on a réussi à accélérer et on est parti 2 jours avant les autres pour retrouver nos familles respectives. Et on était contents de rentrer. Mais voilà, mais écoute, j'espère que ça va plaire. Je pense que là, l'aventure humaine a été grande, quoi. Ça a été vraiment, humainement parlant, je veux dire, l'aventure, elle est chouette. Je pense que Guillaume, c'est quelqu'un de très doué, justement, pour raconter ces histoires-là, pour raconter l'histoire des gens et ce qui s'est passé sur place. Après, le ski, c'est une formalité, quoi. Ça s'est passé. On a réussi à rentrer des images de ski qui sont très belles. On était dans un endroit magnifique. Même si on n'a pas skié toutes les pentes qu'on voulait, on a réussi à le faire. Et donc là, je pense que ça va être une belle aventure. Et je pense que dans un an, quand ça va arriver, il y aura aussi beaucoup de choses qui auront changé. On ne regardera pas la même... Enfin, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, je regarderai encore l'aventure d'un œil différent. Et ça va, je pense, tous nous mettre la larme à l'œil de regarder ce film.
Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé par Charlotte Barzac pour Skieur Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Jérémy Bernard pour sa gentillesse et le temps qu'il nous a longuement consacré pour nous raconter son expédition avec Thomas Delfino et toute l'équipe Picture dans les montagnes reculées du Kirghizistan. Vous pouvez retrouver dès à présent le meilleur du ski dans nos magazines en kiosque, sur notre site skieur.com ou sur notre application smartphone. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skieur Magazine.